Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La France s'apprête à entrer dans son déficit écologique. Demain, les Français auront consommé l'ensemble des ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an. Alerte de l'association WWF France et analyse d'Éric Chavroux en début de journal.
Le référendum au sein d'Air France prend fin ce soir. Il porte sur le projet d'accord salarial rejeté par l'intersyndicale qui poursuit la grève aujourd'hui. Selon un spécialiste, le bras de fer ne se joue pas sur de bonnes bases. Il nous explique pourquoi.
Nous irons ensuite en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron doit se rendre sur l'île d'Ouvéa demain, 30 ans après de sanglants affrontements. Nous donnerons la parole aux Kanaks qui refusent sa venue. Ils s'expliqueront.
Et puis, changer de mot de passe. Voici le conseil de Twitter lancé hier soir à ses 330 millions d'utilisateurs. Le réseau social évoque une faille de sécurité. Ce n'est pas un bug, mais une erreur, presque une faute, nous dira un spécialiste en cybersécurité.
Les présidents et les langues étrangères. Voici le thème du billet politique de Frédéric Seyss à 8h17. Une seule terre ne nous suffira bientôt plus. À partir de demain, la France vivra à crédit. Comprenez, si le monde entier vivait comme les Français, l'humanité aurait épuisé toutes ses ressources naturelles disponibles et renouvelables dès demain. C'est ce que révèle un rapport du WWF France réalisé en partenariat avec l'organisme américain Global Footprint Network. Cela s'appelle le jour de dépassement écologique. Demain donc pour la France. À l'échelle mondiale, il a lieu en été. L'an dernier, c'était en août. Mais la France utilise bien plus de ressources que la moyenne. Éric Chavroux, vous avez consulté les premières données de comparaison qui datent d'il y a 57 ans.
En 1961, date des premières données jugées fiables à ce sujet, le jour du dépassement écologique pour la France était le 30 septembre. Cette année, c'est dès demain, et à notre rythme, l'humanité aurait besoin chaque année des ressources naturelles de presque 3 terres pour vivre normalement. Après une décennie d'amélioration, la situation française s'est de nouveau dégradée depuis 2015, année pourtant de l'accord de Paris lors de la COP21. Mais bonne nouvelle, souligne Pascal Canfin, le directeur général du WWF France, des solutions existent.
On sait faire des maisons à énergie positive, on sait faire de l'agriculture biologique qui émet moins de CO2, on sait faire des voitures propres comme des motos, des scooters, des deux roues, des trottinettes électriques. Donc on sait tout faire qui nous permettrait de diminuer de manière drastique notre empreinte sur la planète. Mais la réalité, c'est que ces solutions sont aujourd'hui encore marginales. Le véhicule électrique, c'est 1,5% des parts de marché. Les maisons à énergie positive, c'est quelques pourcents.
L'Organisation de protection de la nature compte maintenant sur la prise de conscience de chacun et attend de nouvelles politiques publiques en vue d'un désendettement écologique. Elle donne rendez-vous en septembre pour faire le bilan des actions de Nicolas Hulot au regard de 4 textes déterminants en préparation, comme la loi sur l'agriculture et l'alimentation.
Et première indication et rappel, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, loi de Ségolène Royal promulguée en août 2015, son application 3 ans après souffre de retards importants, notait il y a quelques semaines le Conseil économique, social et environnemental. Dans les domaines de la rénovation des bâtiments, des énergies renouvelables et dans la lutte contre les gaz à effet de serre, le Conseil qui interpellait alors Nicolas Hulot et évoquait un plan d'investissement nécessaire de 35 millions d'euros. Le résultat de la consultation chez Air France devrait être publié aujourd'hui pour ou contre le projet d'accord salarial rejeté par l'intersyndicale. Les salariés devaient y répondre par référendum, en substance pour ou contre la grève. Le PDG Jean-Marc Janaillac a misé son mandat en cas de soutien majoritaire aux grévistes. Et si au contraire le vote tourne en faveur de la direction, cette mobilisation va-t-elle s'arrêter, va-t-elle s'essouffler? Pas sûr, estime Pascal Perry, économiste. Spécialiste du secteur aérien, il veut surtout rappeler qu'aucune des deux stratégies n'est bonne pour l'entreprise Air France.
Même s'il s'agit d'une grève qui engage des personnels au sol, des PNC et des PNT, des personnels navigants techniques, donc des pilotes, le mouvement il est quand même plutôt dirigé par les pilotes. Et à l'intérieur de l'entreprise, les pilotes sont la population tout à la fois la plus admirée et la plus détestée. Parce que ils donnent l'impression, à tort ou à raison, aux autres salariés de défendre d'abord leurs intérêts catégoriels. J'ai entendu le Premier ministre dire que si le résultat était non, l'atterrissage serait rude. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'envisager des relations sociales dans une boîte, quoi. Christian Blanc avait fait ça en 93, vous vous rappelez? Mais c'était un contexte quand même assez différent parce que, enfin, le marché était encore assez protégé. L'entreprise était vraiment très lourdement endettée. Elle n'avait pas de trésorerie. Et donc, elle était en situation très périlleuse. Et Christian Blanc avait gagné la partie en persuadant, à juste titre d'ailleurs, les salariés que Air France, contrairement à ce qu'ils pensaient, n'était pas immortel et pouvait mourir. Et c'est parce que les salariés ont compris qu'il y avait un danger mortel sur la boîte qu'ils ont accepté le plan blanc, ce qu'on appelle le plan blanc. Là, la situation est un peu différente et l'enjeu, c'est pas tant la disparition d'Air France, mais c'est son attrition, c'est-à-dire son rétrécissement.
Et en attendant le résultat du référendum ce soir, la grève, elle se poursuit aujourd'hui chez Air France. 75% des vols devraient être assurés, c'est un petit peu moins qu'hier. Les moyens courriers seront les plus touchés. Ce matin, Air France KLM communique ses chiffres pour le premier trimestre 2018 avec une perte de 269 millions d'euros. La grève coûtera au moins 300 millions d'euros, dit la direction. Même proportion à la SNCF où les débrayages en pointillés ont déjà coûté 250 millions d'euros. Selon la direction de la SNCF, ce vendredi, les prévisions sont les mêmes qu'hier, cette fois, avec un TGV et un Transilien sur deux, deux TER sur cinq. Et alors que les grévistes, légèrement moins nombreux, menacent de durcir le mouvement, leur cagnotte de soutien a d'ailleurs quasiment atteint le million d'euros. Les syndicats de cheminots seront reçus lundi à Matignon, tour à tour par le Premier ministre Édouard Philippe. Et puisqu'on parle de gros sous, les interrogations liées au compte de campagne d'Emmanuel Macron s'élargissent. Après Mediapart, Le Monde et l'Obs ont à leur tour épluché ces comptes disponibles auprès de la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne. Là encore, il en ressort que le candidat Emmanuel Macron aurait bénéficié d'un certain nombre de cadeaux, de ristournes pour organiser certains de ses meetings notamment. Cadeaux d'un peu plus de 200 000 euros sur les 16 millions dépensés. La Commission n'a finalement pas relevé de problème majeur et à valider ses comptes. Emmanuel Macron, président, désormais, il est depuis hier à Nouméa pour parler, dit-il, de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. À 6 mois du référendum d'autodétermination sur le territoire, la population semble divisée, d'autant que la visite du chef de l'État intervient 30 ans, jour pour jour, après la prise d'otages de gendarmes sur l'île d'Ouvéa. Lors de l'assaut des forces de l'ordre, 19 indépendantistes kanaks avaient été tués, ainsi que 4 gendarmes. Hier, une marche en bleu, blanc, rouge était organisée dans le chef-lieu Nouméa pour rester dans la République française, disaient les manifestants. Dans le même temps, pourtant, des collectifs d'indépendantistes refusent de voir Emmanuel Macron arriver à Ouvéa, Sarah Maquet.
Banderoles, routes taguées, communiqués dans les médias, la mobilisation a pris de l'ampleur au fil de la semaine.
Toutes les photos
organisées par le collectif Gossana, du nom de la tribu où se situe la grotte où a eu lieu la prise d'otage.
30 ans !
Makiwea, qu'on entend ici interpeller les habitants à l'aérodrome d'Ouvéa, avait 40 ans en 1988. Il n'accepte pas la venue d'Emmanuel Macron.
Mais il va venir pour quoi faire ici ? On reconnaît qu'il y a quand même une évolution de la façon de vivre des gens et puis l'éducation et tout. Mais il faut reconnaître quand même plus de 160 ans de colonisation ici dans le pays. Est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait du mal à notre peuple ?
Bamia se souvient aussi du 5 mai 1988. Aujourd'hui, comme d'habitude, il restera dans sa tribu de Eo, village de Saint-Joseph. Il regrette une journée plus politique que commémorative.
Les deux, trois premières années, là, après la mort des 19, chaque 5 mai, c'était une journée sacrée. Hein. Et puis après, c'était devenu un enjeu politique. Et il y en a qui ont utilisé le 5 mai pour se refaire une image devant les gens, quoi, voilà. Donc, moi, je reste ici chez moi.
Pour Mathias Chocha, professeur de droit public à l'Université de Nouvelle-Calédonie, ces tensions sont logiques. La faute notamment à la forme référendaire du scrutin du 4 novembre.
Le risque des désordres, il vient de là. C'est une réaction viscérale des Kanaks, un refus de devenir un peuple minoritaire chez lui. Dès lors qu'on laisse entretenir l'illusion que finalement l'un peut l'emporter sur l'autre, eh ben, le destin commun ne se fait pas.
Et l'accord de Nouméa prévoit l'organisation possible de deux autres référendums en Nouvelle-Calédonie si le non à l'indépendance l'emporte cet automne.
Sarah Maquet pour ce reportage. Un débat toujours à vif en Nouvelle-Calédonie, dossier qui a fait l'objet d'un choix de la rédaction à retrouver sur franceculture.fr.
8h10, c'est la suite des matins de France Culture avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Twitter craint une vaste faille informatique.
Le réseau social a demandé hier soir à ses 330 millions d'utilisateurs de changer leur mot de passe. Une brèche aurait dévoilé ses mots de passe en interne. Twitter assure que le problème a été réparé et s'excuse, sans préciser toutefois depuis combien de temps la brèche existe, ni combien de mots de passe ont été exposés et s'ils ont vraiment été volés. Alors de quoi parle-t-on? Question posée par Alexis Morel à Nicolas Arpagnan. Il est expert en cybersécurité.
C'est pas tellement une faille, c'est surtout une erreur de leur part, c'est-à-dire que les mots de passe tels qu'ils étaient stockés n'étaient pas ce qu'on appelle hachés, c'est-à-dire remplacés par une série de lettres, de chiffres qui permettent de rendre illisible à quelqu'un qui, de l'extérieur, accéderait à la base de données. Donc là, effectivement, le stockage en clair était, alors pas un bug, mais une erreur, presque une faute, et là, en l'occurrence, Twitter prend les devants. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui fonde la confiance, et ça, c'est quelque chose de totalement indéfinissable, de totalement impalpable, qui ne se démontre pas par des campagnes publicitaires, il faut bien que les gens n'aient pas de doute quant à l'intégrité des informations qu'ils confient au réseau social. La deuxième chose, c'est la réglementation. Par exemple, pour la zone Europe, le règlement général sur la protection des données prévoit des sanctions financières importantes en cas de perte ou de vol de données personnelles et qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial globalisé. Ce texte entre en vigueur sur toute la zone européenne le 25 mai prochain. Vous vous doutez bien qu'une entreprise a besoin d'être vigilante quant à ces mesures de sécurité concernant ces éléments que sont notamment les mots de passe et les identifiants.
Et rappelons que Twitter a publié pour la première fois de son histoire des résultats positifs au dernier trimestre 2017. Mais le groupe reste dans une situation instable, précaire. En Syrie, dans la province d'Idleb, une ONG a été visée par une attaque à la voiture piégée. Elle vient en aide aux déplacés sur place. Au moins 2 personnes ont été tuées. Et puis le travail de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques se poursuit toujours en Syrie, à Douma, dans la Route orientale. Territoire visé, rappelons-le, par une attaque chimique présumée le mois dernier. Les experts prévoient d'exhumer les corps de certaines victimes pour compléter l'étude des échantillons prélevés sur le site. Et le rapport d'enquête est attendu d'ici un mois. Partons maintenant dans un petit pays enclavé, entouré par d'autres pays en guerre, l'Ouganda. Il accueille le plus grand nombre de réfugiés sur le continent africain, 1 400 000 venus en majorité du Soudan du Sud. L'Ouganda est devenu ces dernières années un modèle d'intégration pour ces réfugiés. Car avec le soutien du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, soutien également d'autres organisations, eh bien les autorités ougandaises donnent des terres aux réfugiés le temps de leur exil et leur permettent de travailler surtout. Valérie Crova, bonjour.
Bonjour.
L'Ouganda, Valérie, c'est l'objet de votre magazine de la rédaction qui sera diffusé ce soir sur France Culture.
Churchill l'appelait la perle de l'Afrique. Cette ancienne colonie britannique et ses 37 millions d'habitants fait figure d'exemple. C'est un modèle unique dans le monde. Les réfugiés sont intégrés à la vie économique locale. Ils ont une totale liberté de mouvement. Et comme vous le disiez, ils ont le droit de travailler. C'est même inscrit dans la loi. Sur des terres que les Ougandais leur donnent, ils peuvent construire des cases et cultiver du manioc, du maïs ou encore des patates douces. Le but, qu'ils deviennent autosuffisants, ce qui dans la réalité n'est pas le cas. Disons que cela leur permet d'être moins dépendants de l'aide internationale et de mieux vivre, même si leurs conditions restent évidemment très précaires.
Mais tout de même, ce modèle, Valérie, est scruté de près par le Haut Commissariat aux réfugiés qui dépend des Nations Unies.
On peut même dire qu'il a valeur de test pour les bailleurs de fonds et les Nations Unies, car s'il fonctionne, ce modèle pourrait être répliqué ailleurs, dans d'autres pays, de façon à contenir les migrations vers les pays occidentaux. Alors jusqu'à présent, ça marche plutôt bien, malgré des tensions qui peuvent apparaître entre les communautés locales et les réfugiés. Alors pour dissiper les conflits, les autorités ougandaises ont par exemple imposé que 30% de l'aide internationale soit redistribuée à la population locale. Mais de tout cela, on reparlera ce soir.
Merci Valérie Crova. Ce soir, effectivement, à partir de 17h sur France Culture, votre magazine L'Ouganda, l'antithèse de l'Europe. Il a été réalisé avec Annie Brault et sera suivi d'un débat autour d'Aurélie Kiefer. C'est sans doute l'événement sportif le plus important jamais organisé à Jérusalem. Cet après-midi, le Tour d'Italie en cyclisme, le Giro, s'élancera depuis le pied de la vieille ville pour un contre-la-montre, c'est-à-dire une boucle en individuel. Mesure de sécurité évidemment maximale, car un événement de cette dimension à Jérusalem a un caractère politique forcément, d'autant qu'il tombe l'année des 70 ans de la création d'Israël et quelques jours avant le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Les précisions d'Étienne Monin.
Pour les dirigeants israéliens, ce départ du Giro, c'est un peu un miracle. Il a été obtenu par un milliardaire passionné de cyclisme qui a payé le gros de la facture et qui offre donc au gouvernement, à peu de frais, une formidable vitrine touristique et politique. Parce que cet événement va permettre de montrer les beautés d'Israël à des millions de téléspectateurs. Le peloton va passer sur la côte, il descend ensuite dans les paysages colorés du désert du Negev. C'est un moyen pour le pays d'être reconnu sur ses qualités au moment où l'économie a de bons indicateurs et la haute technologie de bons résultats. C'est aussi une façon d'accroître l'empreinte sur Jérusalem. Ce tour est la réaffirmation que la ville est la capitale d'Israël pour les Israéliens. C'est un peu une démonstration 10 jours avant le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, qui sera le point final d'une action unilatérale condamnée majoritairement par les Nations Unies. En un week-end, Israël va chercher à imposer l'image de la nation moderne qui célèbre le sport universel, après avoir été pendant plusieurs semaines le pays accusé d'un usage disproportionné de la force contre des jeunes à Gaza. Les deux situations vont d'ailleurs se télescoper. Le pic de la marche du retour devrait avoir lieu au moment du départ du contre-la-montre.
Notre correspondant Étienne Monin dans la région. Temps sec ce matin en France métropolitaine, ensoleillé malgré quelques nuages sur le sud de la France. Des averses sont d'ailleurs attendues près de la Méditerranée sur le sud-est. Les températures remontent un petit peu. 13 degrés ce matin à Nantes, 14 à Lille, comptez 15 degrés à Paris et Strasbourg, 18 à Lyon et jusqu'à 21 degrés à Nice.